Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h43, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc le maire de Cannes, par ailleurs porte-parole de l'Association des maires de France, David Lisnard.
Bonjour David Lisnard.
Bonjour.
Cannes, la ville dont vous êtes le maire, vit du festival, mais pas que, hein, évidemment, devrais-je dire d'ailleurs, des festivals, des colloques, des séminaires, ou de grands événements de la région comme le Grand Prix de Monaco. Qu'attendez-vous de l'allocution du président demain soir ?
De la méthode, des perspectives, du bon sens, de mettre un terme à des situations à la fois inefficaces dans la lutte contre la maladie et injustes sur le plan social, économique, des fermetures injustifiées sur le plan sanitaire, de commerce, d'établissements, l'impossibilité d'aller dans la nature, sur la mer, c'est absurde. Ça ne sert à rien contre la maladie, bien au contraire. Et ça détruit la vie. La vie, elle n'est pas que biologique, elle est aussi sportive, culturelle. Donc, plus de cohérence, plus de bon sens.
Mais voyez votre question. Ça veut dire quoi, David Lisnard ? Ça veut dire que jusqu'à présent, tout a été fait en dépit du bon sens ?
Non, parce que ce serait bien prétentieux et bien démagogique que de dire ça. Mais depuis le mois de mars, on a appris à modéliser les différents scénarios d'évolution de la maladie. Il y en avait un qui était une nouvelle vague de la maladie, hein, une deuxième vague, ça a été évoqué, d'autres qui pensaient qu'elle s'éteindrait, mais en tout cas, il y avait eu des modélisations, et gouverner c'est prévoir, c'est aussi simple que cela, c'est pas de moi, et d'anticiper, et je crois que quand il y a une face, l'homme arrive à aborder un risque. C'est l'histoire de l'humanité d'ailleurs. Donc au départ on est sidéré, on se protège, on se referme, puis ensuite on arrive à aborder le risque. On se remet d'un risque, on affronte un risque, en revanche, on ne se remet pas, et notamment sur le plan social et économique, de l'incertitude. Donc, de même que sur le risque, par exemple, attentat, on a créé Vigipirate avec plusieurs degrés de risque et plusieurs degrés de réponse. Le gouvernement aurait dû travailler cet été, ce qu'il n'a pas fait, pour anticiper les différents scénarios et que les règles soient claires. Et voyez, pardonnez-moi, mais le fait qu'on attende la parole présidentielle et qu'on ait une prise de parole de l'exécutif chaque semaine, du Premier ministre
mais
ou
on n'est
président.
Pas dans une situation normale. Mais on est dans une situation de crise.
La politique, c'est par définition l'appréhension de la crise. La normalité, quand vous gérez un pays, je crois que ça n'est, un président se voulait normal, on a vu ce que ça a donné. Donc aujourd'hui, la difficulté, c'est de recréer de la visibilité dans de l'incertain. Ben, c'est l'anticipation. Et juste pour terminer là-dessus, je pense qu'on est à un tournant de notre démocratie. Moi, je le crois profondément. Qu'on est face à d'immenses dangers. Donc il faut créer des alternatives crédibles, il faut arriver à remettre du choix rationnel. Le fait qu'on attende ainsi la parole du président de la République, ça révèle l'obsolescence, à mon avis, du régime. Je le crois profondément.
C'est-à-dire
que cette théâtralisation, parfois cette hystérisation, cette hypercommunication, en face, on a besoin de plus d'anticipation, d'exécution, d'adaptation de l'action publique. Bref, de sobriété.
On va y revenir. Je voulais savoir, simplement, si je vous comprends bien, vous n'auriez pas reconfiné, vous ?
Mais on parle de mots, on parle d'un mot qui ne renvoie pas à la même réalité qu'en mars, et qui ne rend pas la même réalité que dans d'autres pays. Il fallait des limitations d'activité qui propageaient la maladie.
Quoi ?
C'est-à-dire, par exemple, regrouper à l'intérieur d'une salle fermée pour un concert de plus d'une heure. Aujourd'hui, on ne peut pas. Voilà, c'est une évidence. Fermer un restaurant, ça se discute. C'est-à-dire que moi, j'habite dans les Alpes-Maritimes, Monaco, qui n'est pas du tout laxiste face à la maladie, a gardé ses commerces ouverts, c'est chez nous, hein, et a gardé ses restaurants ouverts en journée. Avec, en revanche, des jauges, des purificateurs d'air, une jauge par rapport à la surface. On peut imaginer d'utiliser l'espace public extérieur. Mais il faut bien comprendre que cette notion, cette folie bureaucratique que j'évoque, jusqu'à la définition par une administration et un gouvernement de ce qui est essentiel pour nous, est une absurdité. Et ne sert à rien contre la maladie.
Mais vous avez bien vu qu'à certains endroits, alors vous nous citez Monaco, c'est petit, à certains endroits, quand on ne confine pas, les hôpitaux sont saturés. Donc on va jusqu'où ? On va jusqu'à la saturation des hôpitaux ?
Non, mais pas du tout. Mais on nous met dans un débat où on voudrait opposer deux légitimités, ce qui d'ailleurs la grandeur de la politique, c'est-à-dire le sanitaire et l'économique. Moi, je vous dis, et d'autres le disent, et d'autres le font, dans d'autres pays, pas qu'à Monaco, je dis Monaco, parce qu'il y a une injustice profonde par rapport à nous, mais par rapport à des pays du Sud-Est, d'Allemagne, etc. C'est-à-dire qu'on peut mieux lutter contre la maladie en ciblant autour des cas contagieux qu'on n'a pas su tracer, pas su isoler, ou mal su isoler et mal su tracer, parce qu'on s'est fait bouffer par des procédures bureaucratiques. On aurait pu moins saturer les hôpitaux et ne pas détruire des emplois.
Donnez-nous quelques exemples de normes absurdes.
Sur le plan sanitaire,
oui,
dans la crise actuelle, le fait aujourd'hui...
Ou économique.
Économique, je crains que Yves Calvi doive nous ouvre l'antenne à ce moment-là toute la matinée. Mais
je n'irai pas jusque-là.
Écoutez, c'est dommage. Mais si vous voulez, regardez la façon dont aujourd'hui on a été en carence, contrairement à d'autres pays, qui ont moins de dépenses publiques. Enfin, on est les champions des prélèvements obligatoires, 46% du PIB, hors crise sanitaire, et de la dépense publique, 56%. On aurait pu attendre d'autres choses que de la pénurie sur l'essentiel. On a eu un excès de ce qui était bureaucratique, c'est-à-dire les auto-attestations, les autorisations de sortie. On est le seul pays d'Europe où, tous les jours, on passe notre temps à faire de la bureaucratie pour aller acheter sa baguette ou aller sortir son chien. Et donc, c'est, je trouve, révélateur d'un pays qui se complaît dans l'hyper-bureaucratisation et qui est en pénurie, ce qui est essentiel. Non,
c'est pas nouveau,
c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Je pense qu'il y a une dérive depuis une trentaine d'années, que la crise, elle révèle, en fait, un système qui n'est pas adapté à la bonne gestion publique, à la performance publique.
La faute à Macron ?
Mais c'est la faute à nous tous, à la société. C'est-à-dire que on a voulu une espèce de sécurité maximale sociale. On a fonctionnarisé le pays. On est tombé dans un système de spirale. Et aujourd'hui, on a au sommet de l'État des personnes qui sont honnêtes. La question n'est pas là. Qui travaillent, qui veulent l'intérêt public, mais qui sont l'archétype d'un système. Archaïque, voilà, complètement.
C'est Emmanuel d'ailleurs Macron paradoxal. Est archaïque.
Oui, je le pense. Mais c'est pas pour personnaliser. Je pense qu'aujourd'hui, le système de production des élites qui nous gouvernent est très conformiste, qu'ils ne connaissent pas l'économie du risque. Donc que forcément, dans un système en plus où on judiciarise l'action politique, ce qui est une ineptie, eh bien ça n'incite pas à l'imagination, à l'audace, à la créativité. On a besoin de créativité.
Donc vous regrettez qu'il ne se soit pas suffisamment appuyé sur les maires ?
Les maires, les chefs d'entreprise...
Mais on a mis Jean Castex, Premier ministre, sur un positionnement territoire. C'est lui qui a mis en œuvre le couple préfet-maire. Ça n'a pas marché, tout ça ?
Non, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Les préfets apprennent à la télé les mesures qu'ils vont devoir appliquer. Les décrets d'application, par exemple sur l'organisation des marchés, sur les fermetures de commerce, nous les recevons en préfecture et en mairie après la date d'exécution théorique. Donc c'est dire à quel point la machine administrative elle est complètement vérolée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la bonne gestion publique serait d'élaborer des scénarios réglementaires face à des hypothèses d'évolution de la maladie, qu'on les connaisse à l'avance, qu'on les adapte s'il le faut, et que les décrets et les documents soient élaborés avant.
C'est uniquement parce qu'il n'y a que des énarques à l'Élysée
C'est vous qui le dites. Je pense qu'on a une formation des élites aujourd'hui, que je le dis, qui est obsolète, qui n'est plus en prise avec la réalité, qui n'a plus de circulation des élites, qui a une reproduction des modes de pensée. Je le crois profondément, que le recrutement dans la fonction publique doit se faire différemment, qu'il faut qu'on se pose la question du statut de la fonction publique, qu'il faut qu'on le réserve aux fonctions régaliennes, et que ce que je vous dis, moi, c'est factuel, c'est ce que l'on vit. Je peux vous donner une multitude d'exemples hors crise sanitaire, pour refaire un morceau de littoral qui appartient à l'État, qui est en état déplorable. Ça fait 7 ans que je demande l'autorisation de dépenser de l'argent à la place de l'État sur un projet qu'il a déjà validé. C'est toute la journée comme ça.
David
Wiesner. Ce que connaissent les chefs d'entreprise, les commerçants, les maires, enfin ceux qui décident, qui sont des praticiens.
Vous avez soutenu la seule librairie indépendante de Cannes autour du livre qui a refusé de fermer pendant le confinement, malgré une mise en demeure de la préfecture. Librairie qui a été soutenue par de nombreux écrivains. Avec votre soutien, vous autorisez une forme de désobéissance en fait ?
Ah, la fameuse désobéissance. Moi, j'ai prévenu la libraire des risques qu'elle prenait.
Je croyais qu'on était légaliste, moi, chez les Républicains.
Bien sûr, je suis légaliste en tant que citoyen, d'ailleurs.
C'est républicain, ça, de... Alors, non, mais parce que tout le monde peut soutenir son coiffeur, son cordonnier, pour qu'il se reste ouvert.
Alors, je vais vous renvoyer un grand républicain, justement, qui était le philosophe Alain, qui disait « résistance et obéissance, voilà les deux vertus du citoyen ». Je trouve que cette formule magnifique. C'est-à-dire qu'il faut obéir à la loi. Moi, je n'ai pas incité la libraire à rester ouverte. D'ailleurs, je l'ai même averti sur les dangers qu'elle prenait. Ensuite, on ne peut pas faire grief à la mairie de faire fermer les établissements, parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Encore en France, les mairies n'ont pas le droit de faire appliquer ce type d'arrêté, ce qui est d'ailleurs aussi absurde. En revanche, en tant que citoyen, je souhaite que la règle change et je souhaite effectivement que, comme les autres commerçants, avec des protocoles sanitaires très stricts, très contrôlés, elles puissent ouvrir. L'État, incapable de réprimer les minorités qui nuisent, pénalise tous ceux qui produisent. C'est malheureusement une réalité croissante. Donc plus d'autorité régalienne, et moins d'interdits généraux. Juste là-dessus.
Mais vous trouvez qu'on infantilise trop les Français ?
Oui, je le trouve.
Et
oui.
Vous trouvez que les Français
dans le langage de Jean Castex, qui est un homme respectable, dans la façon dont il s'adresse à nous en tant que citoyens, je pense qu'on ne nous met pas en situation de responsabilité. Je crois que...
Nous sommes responsables, nous les Français ?
Ben, ça veut dire quoi ? D'abord, nous les Français, c'est une somme d'individus.
Vous, moi, donc, Yves.
On est responsable si on nous explique les enjeux. On est responsable si on nous réprime lorsqu'on fait quelque chose d'illégal. Donc, il faut plus de répression ciblée. Mais en revanche, on est déresponsabilisé quand on est face à des interdits généraux qui nous infantilisent.
Une dernière question, David.
Juste quand même, pardonnez-moi, Baventura, mais vous imaginez de quoi on parle, quoi ? C'est-à-dire de acheter un livre aujourd'hui serait devenu un acte de sédition. La manifestation d'une rébellion, l'expression d'une révolte. Enfin, comment la France a pu en tomber à ce niveau-là, quoi, d'absurdité ?
Une dernière question. Nicolas Sarkozy était venu vous soutenir à Cannes pour les municipales. Il est attendu aujourd'hui devant le tribunal dans l'affaire dite des écoutes. Il reste pour beaucoup une référence, parfois même un recours pour certains. Est-ce que finalement, il n'empêche pas les Républicains de trouver une autre figure ?
Je crois qu'on est toujours empêché par soi-même. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Nicolas Sarkozy lui-même a dit qu'il tournait la page. Donc il a tourné la page et il reste une figure forte. Mais je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire émerger des offres crédibles alternatives pour ne pas laisser Emmanuel Macron face aux extrêmes. Parce que ça va mal tourner, ça va mal se terminer. Donc vous, c'est-à-dire, oui, il faut qu'il y ait une alternative. Non, mais je suis très honoré d'être ce matin sur RTL en tant que maire de Cannes. Il faut que quelque chose émerge et qu'on puisse comparer des choix rationnels, poser des débats et sortir de ce manichéisme qui fait que lorsqu'on défend des commerces, on croit qu'on veut envoyer des gens à la morgue, comme l'a dit le Premier ministre, qui est absolument délirant, et qu'on puisse avoir un débat démocratique mature. Sinon, je vous le dis très très clairement, il y a des forces centrifuges aujourd'hui très puissantes en France. On va avoir une désespérance sociale et quand la reprise sera là, le sentiment de frustration et d'injustice va amener à des mouvements. Donc, il faut que la politique reprenne de l'emprise.
Merci beaucoup, David Lisnard.
Merci à tous les deux et l'intégrité.
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Bowie chante Brel, Charles Aznavour s'essaye au disco, Clo-Clo à l'anglais. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.